l'essentiel avec quatre intervenants. Tout d'abord, avec Sevent, avec Sorcière Associée, donc là, qui est sorti dans la collection Bado Wolf Edition QSF, avec deux sorcières bien pêchues, qui sont des détectives privés. Va nous raconter tout ça. À ses côtés, Sébastien Paladat. Alors, j'ai plutôt pas mal de titres. Bâton de Cerne, je l'ai bien prononcé, Alias Price. D'accord, donc là aussi, on va parler de magie, et notamment de gens qui se découvrent, sorciers ou sorcières. Donc on verra si le choc et l'apprentissage un petit peu. À ses côtés, Malopin Malo, avec l'Erika Deravan, trois dames sur les sorcières, avec une héroïne qui est une sorcière. Donc là aussi, peut-être qu'on pourra avoir des correspondances entre les deux. Les sorcières sont-elles toujours les mêmes ou pas? Et puis à mes côtés, Ron Marty, on avait lu Les Enfants de Picou de l'année dernière, et là on a pu lire La Mer des Eaux, et là tout se passe en Louisiane. La Louisiane, c'est vaudou, donc encore une autre forme de sorcellerie, et on va pouvoir peut-être en discuter. Moi je vous propose en attendant dans un premier temps d'aller voir un petit peu les sorciers, les sorcières qu'ils sont tous, et comment ils les ont mis en scène, et puis à partir de ce moment-là, on tire sur les fils magiques, évidemment. Alex, on va commencer par toi, avec tes deux héroïnes. Toi, tu n'as pas une, mais deux sorcières, et elles sont détectives. Est-ce que tu peux nous en brosser rapidement le portrait?
Bonjour. Essentiellement deux sorcières qui évoluent dans une société où la sorcellerie est acceptée. C'est un métier presque comme un autre. Et donc les sorciers n'ont pas un cabinet où les gens viennent les voir. Si vous avez une maison hantée, et ben vous allez voir un sorcier pour que le sorcier vous déloge votre fantôme. Si vous êtes victime d'un envoûtement lancé par un de vos concurrents, et ben vous allez voir un sorcier pour essayer de vous désenvoûter. Donc c'est, disons que c'est leur métier habituel. Et ce qui se passe, c'est qu'elles vont pouvoir sortir, disons, du cadre habituel de leur métier et se retrouver en train de faire des enquêtes de type enquête policière parce que, d'une part, elles sont contactées par un démon et donc là, ce n'est pas quelqu'un qui leur demande de les désenvoûter ou de les débarrasser d'un démon, c'est un démon qui leur demande de les débarrasser d'un être humain. Et donc, c'est un cas de figure totalement inhabituel pour elles. Donc, elles vont devoir travailler là-dessus. Et l'autre problème qui se pose à elles, c'est qu'une usine qui est opérée par des zombies qui fabriquent des automobiles. C'est une main-d'œuvre très bon marché. Donc, vous voyez que la sorcière est parfaitement acceptée parce qu'il est parfaitement acceptable de transformer des cadavres en zombies. Mais le problème dans cette usine, c'est que ces voitures ont des défauts de fabrication. Et donc le propriétaire de l'usine soupçonne qu'il y a un sabotage, et évidemment un sabotage magique. Donc ces deux sorcières qui ont un mode de vie qui ressemble beaucoup à celui d'un citoyen ordinaire. Bon, elles ont un passé un petit peu agité, mais il y en a une qui est une fille, qui a une maison bourgeoise, un certain milieu social. L'autre qui est plutôt du genre avoir une vie un petit peu agitée, elle aime beaucoup perdre de l'argent au casino, elle aime beaucoup draguer, elle aime beaucoup la lutte, les sports de combat. Donc elle, son entourage social, c'est plutôt un club de combat, un club de savate. Ce ne sont pas des sorcières qui sont, rejetées ou qui exercent en secret parce que ça fait partie de leur quotidien, du quotidien de l'univers que j'ai décrit.
On va aller vers mes roupées. Autre héroïne, là aussi c'est une sorcière. Hein. Comment est cette sorcière?
Alors elle est jeune, 19 ans, et en fait quand le texte commence, le texte s'appelle Sorcière malgré elle, parce qu'en fait elle ne sait pas du tout qu'elle est d'une lignée de sorcières. Elle revient chez elle après 8 ans de pension, et déjà elle ne sait pas pourquoi on l'a envoyée là-bas, loin de chez elle, loin de sa famille, et elle se dit qu'elle va enfin avoir Et la deuxième chose, on est dans notre monde, dans la France actuelle. En fait, elle va découvrir qu'elle est donc l'héritière d'une sorcière, mais pour elle, par contre, le secret, c'est fondamental. Donc, il y a une pièce cachée dans le grenier où il y a un grimoire qui veut bien ou ne veut pas lui donner des réponses à ses questions. Donc, pour elle, ça va être vraiment la question de l'apprentissage de celle de la sorcellerie, sachant qu'au départ, elle, elle se considère comme une jeune fille moderne qui a un petit peu des talents de hackeuse et qui est nulle en sorcellerie, et puis finalement, ça va un petit peu s'inverser en fait.
Donc, elle découvre un petit peu ses pouvoirs et ses capacités. C'est ce qu'on retrouve aussi avec Sébastien Lalande, avec notamment le bâton de Cerne, où le héros découvre qu'il est sorcier.
Voilà, en fait, comme l'a fait exprès, son père lui apprend qu'il n'est pas humain, que sa mère était une sorcière. Et il meurt la même nuit. Donc en fait, le héros se retrouve totalement au dépourvu en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire. Et il n'a personne pour l'informer, parce que pour le coup, il se retrouve orphelin totalement. Et donc il va commencer, son premier réflexe, comme il adore les livres, c'est d'aller se réfugier dans la bibliothèque, rencontrer sa meilleure amie, et d'essayer de trouver réponse dans les livres, sauf qu'il n'y a pas vraiment de réponse, puisque les deux mondes vivent en parallèle, mais le monde des surnaturels essaie de rester caché aux yeux des humains, pour que les humains pensent qu'il n'y a que des humains, pour pas qu'un conflit se déclenche. Donc en fait, ça va être son processus d'apprentissage, il va rencontrer. Thomas qui lui est un sorcier aussi, donc ce sont des sorciers scandinaves en fait, qui s'appellent les Völuers, qui en fait empruntent leur pouvoir aux divinités, notamment à Odin et à la déesse Freya. Et en fait, Eric va se rendre compte qu'il est capable de faire des choses sans avoir besoin de faire appel aux divinités. Donc le bâton de cèdre, c'est dans le bâton qui sera envoûté, qui sera lancé en envoûtement, et il va se rendre compte qu'il y a une légende qui raconte qu'une Volva a enfanté avec Odin, et de cet enfant, en fait, est né le premier bâton de cèdre. Et donc, il y a toute cette découverte autour de ça.
Donc là, on est plutôt dans l'équipe de sorciers et de sorcières. Positive ou positif, hein. On n'a pas de méchant. C'est pas pareil, chez Rod. On est en Louisiane et les choses sont un peu plus sombres.
Alors, sur le dernier, oui, on est en Louisiane. Par contre, par rapport à mes trois collègues, les sorciers sont assez loin dans le roman. Moi, ce que j'explore plus, c'est les répercussions de certaines cérémonies ou le fait de faire des demandes à l'au-delà. Et parce que, bien sûr, rien n'est jamais gratuit. Mais généralement, les personnages dans Les Enfants Picots, c'était un chaman. Dans le deuxième, tout est lié à une cérémonie faite par une prêtresse vaudou il y a bien longtemps. Mais ce qui m'intéresse le plus avec ces personnages-là, c'est plus le mystère. Et à chaque fois qu'on fait appel à ces personnages-là, c'est toujours dans une situation d'urgence. Donc on leur demande quelque chose d'exceptionnel, de non naturel, pour essayer d'améliorer son quotidien, sa vie. Et sans qu'on ait vraiment toutes les explications sur le prix à payer.
Et sur du prix, on va revenir sur la magie et son prix. Mais avant, pourquoi est-ce que vous avez choisi la figure du sorcier ou de la sorcière? Pourquoi pas une fée, une magicienne ou un magicien? Qu'est-ce que le sorcier ou la sorcière a de plus? pourquoi sorcier et sorcière?
Alors, moi, ce qui m'intéressait dans la figure de la sorcière, moi, c'était assez évident que ce serait une héroïne et donc une sorcière, c'est que c'est une figure très très multiforme, notamment toutes les sorcières qui vivent au fond des bois, qui guérissent, qui jettent des sorts, etc. Et moi, je voulais un récit contemporain, donc dans notre époque, et c'est ça qui m'intéressait, c'était de voir ce qu'on pouvait garder de l'héritage de la sorcellerie traditionnelle, on va dire, une fois qu'on l'appliquait à notre monde, à notre réalité, et donc du coup, quel était non seulement le personnage de Tassia, qui est mon héroïne, mais aussi la famille Raven, qui est donc la famille traditionnelle de sorcières, qui a fait beaucoup de choses pour la ville dans laquelle elle vit, mais qui en même temps est une famille qui se cache, qui est beaucoup refermée sur elle-même, parce qu'il y a ce secret à protéger, parce que tout le monde sait bien que quand on dit qu'on est sorcière, il se passe des trucs pas très sympas. Donc je suis partie sur cette idée-là, et du coup, c'est pour ça que c'est ce qui m'intéressait, c'est ce double côté traditionnel et moderne que j'ai regardé dans une fille tout à fait contemporaine dans ses goûts, dans ce qu'elle avait envie de faire de sa vie, parce qu'elle veut faire des études, et donc elle est juste dégoûtée de voir qu'elle va avoir une grande maison vide et qu'il faut qu'elle se débrouille pour faire son chemin dans la vie, et d'autant plus qu'elle va avoir les pouvoirs qui vont un peu lui tomber dessus, parce que du coup, ses pouvoirs ne s'étaient pas éveillés tant qu'elle était loin de sa ville natale, et elle va par trois fois au cimetière voir la tombe de sa famille, et en fait, la troisième fois, quand elle touche la pierre tombale, ses pouvoirs se réveillent, et du coup, elle ne le sait pas elle-même encore une fois, parce que j'aime bien mettre un petit peu des indices pour le lecteur, mais non, le lecteur a vu le titre, donc il se doute qu'il y a une sorcière, mais elle l'a pas vu. Donc du coup, elle découvre une maison dans laquelle il y a beaucoup de sel, il y a des choses un peu bizarres, quoi, qu'elle arrive, une horloge, qu'elle arrive une horloge lunaire, elle se dit, mais c'est quoi ce truc? Bon, c'est peut-être décoratif et tout ça, mais elle n'arrive pas à les nettoyer, il y a une sorte de poussière qui reste, et c'est le jour où ses pouvoirs se réveillent, que l'horloge se remet à marcher, qu'elle est comme neuve, et qu'elle comprend un peu d'où vient ce sel, etc.
C'est un peu un sorcier pour le coup, là, on quitte les sorcières.
Alors, en fait, j'avais envie d'avoir une dualité avec les chasses aux sorcières qui ont sa vie en Europe et en Amérique. En fait, j'avais envie d'avoir une dualité et j'ai le personnage de Thomas, en fait, qui est à la fois sorcier et en fait, qui est à la fois aussi prêtre pour l'église scandinave. Et j'avais envie d'avoir un personnage qui soit vraiment dans le camp du
dépression. Donc, effectivement, on se passe à bon, cette période de dépression.
Oui, c'est le retour véritablement de
la magie. C'est le retour de la magie, oui. C'est le retour de la magie et de tous les problèmes qui vont avec. Et c'est le retour de la magie dans une société qui a évolué pendant 400 ans sans magie, qui est arrivée par la révolution industrielle, en gros. Donc, un mode de raisonnement qui n'est pas du tout mystique, qui est extrêmement matérialiste. Et du coup, les gens ont beaucoup de mal à accepter le côté mystique de la magie, et surtout le fait qu'on ne puisse pas l'exploiter autant qu'on le voudrait, parce qu'il y a ce fameux prix à payer.
Il y a une confrontation chez Tarot sur justement la technologie et la magie vaudou. Les rendus acceptent cette magie facilement.
Ils n'acceptent pas cette magie facilement. Il y a toujours mon héroïne dans mon dernier roman, donc La Mer des Eaux, quand elle est prête à invoquer cette pièce, elle le fait en pensant que ce n'est pas vraiment possible et qu'elle n'a pas grand-chose à risquer. C'est-à-dire qu'elle a déjà tellement tout tenté, elle a déjà dépensé tellement d'argent en médecin, en frais hospitaliers, elle a tellement passé de temps que lorsqu'on lui parle de cette fameuse déesse, elle se dit, de toute façon, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, j'en rigolerai avec mes copines quand je serai de retour chez moi.
Et pour mes repères, c'est vrai, est-ce que le fait que dans vos deux héros, à chaque fois, ont perdu leur famille, est-ce que c'est ça le prix à payer? Quel est le système de magie que vous avez mis en place?
Alors, sur le système de magie, moi, je ne voulais pas avoir un système de magie rigide, on va dire. Donc, moi, je suis partie, je voulais avoir plusieurs types de façons de jeter les sorts. Donc, d'abord, mon héroïne, elle va faire la façon vraiment traditionnelle. Elle prend un bol, elle prend des ingrédients, elle mélange tout ça, elle suit une recette. Et puis, ça marche ou ça ne marche pas, parce que ce qui m'amusait aussi, évidemment, c'était qu'elle est en apprentissage, donc des fois, ça rate, quoi. Et du coup, ça retarde son apprentissage de la magie, mais elle en tire évidemment les conséquences. Et puis, il y a d'autres fois, ça va être juste un mot. Par exemple, elle va avoir un sort qui s'appelle le sort au glu. Donc, ça va coller quelqu'un quelque part, ce qui est assez pratique dans un poursuivant qui vous chasse et que tout d'un coup, vous arrivez à l'arrêter. Et là, il n'y a pas besoin d'un rituel et de préparatifs particuliers. Mais c'est au fur et à mesure qu'elle progresse dans son don qu'en fait, elle arrive de plus en plus à se passer de ce rituel avec le matériel, les bols, les bougies, enfin, tout ce qu'on associe à la sorcellerie. Sur le prix à payer, oui, moi je me suis dit que j'avais déjà privé mon héroïne de famille au début du texte, donc elle n'allait pas encore en plus avoir un autre prix à payer par rapport à ça. Cela étant, évidemment, le prix qu'elle paye aussi, c'est qu'elle rencontre un garçon qui lui plaît beaucoup, qui s'appelle Alec Forsythe, qui est de l'autre grande famille de la région, et c'est les deux familles ennemies, quoi. Et du coup, ils sont tous les deux, bon, tirés l'un par l'autre, mais ils ont aussi leur deux familles derrière eux, et du coup, ils ne peuvent pas trahir ni l'un ni l'autre leur famille, et vivre la relation. Donc ça, c'est vraiment une question aussi importante dans le tome 1. Et par rapport au système de magie, il y a beaucoup de filiation, je pense que vous l'avez compris, mais pas seulement, c'est-à-dire que mon héroïne, pareil, c'est une trilogie, dans le tome 2, elle va faire naître un arpenteur de temps, donc qui évolue dans un sablier, et lui, en fait, il n'est pas du tout d'une famille de sorciers, où il n'a pas de magie en lui, c'est elle qui va lui donner ce pouvoir, et il aura le temps de sa vie, en fait, parce que sa famille fait naître des arpenteurs de temps pour pas vraiment
maternité et aussi d'espoir et de désespoir sur la maternité. Le fait d'utiliser de la magie des sorcières, de la fantaisie urbaine, qu'est-ce que ça vous permet? Est-ce que c'est à la fois un amusement de pouvoir doter vos personnages de magie, ou est-ce que ça permet de mieux mettre en lumière dans votre esprit ces différentes thématiques? Je jette la question au milieu, qui veut répondre?
Alors moi, l'utilisation du fantastique dans mes romans, c'est toujours un prétexte en fait, pour accélérer les choses. C'est-à-dire que Émilie, j'aurais pu faire un roman sur son infertilité et surtout toute son histoire et son manque d'enfants sur des années. Mais le fait de visiter de Vaudreau, d'avoir cette déesse qui lui permet d'enfanter, ça permet aussi de travailler toute l'obsession autour de ça. Donc, c'est vrai que moi, dans mes romans, il y a quand même c'est assez réaliste en général. Et fantastique vient se poser dessus en sous-couche. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est les résultats que ça provoque chez le personnage.
Et pour les autres, hein.
Cette usine avec les zombies, il a un problème parce qu'il a 400 automates mobiles à livrer à les clients et qu'il ne peut pas se permettre d'être en retard. Il a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans une usine, pourquoi il y a des sabotages. Il va avoir recours à la magie parce que ça va lui permettre de résoudre un problème qui peut pour lui être très épineux parce que sinon il va se retrouver. Il va mettre la clé sous la porte. Il y a une autre histoire, des questions d'une guerre, où les deux parties, aucune n'arrivant à avoir le dessus, vont essayer d'utiliser la magie à des fins destructrices. Comme je l'ai dit, si vous jetez directement un sort pour tuer quelqu'un, vous mourrez vous-même et vous formez des kamikazes sorciers pour détruire un maximum de soldats de la partie adverse. Donc pour moi, c'est un révélateur. Et d'ailleurs, c'est le cas dont, je crois, dans probablement 90% des romans de fantasy et des contes. La magie pour la magie, c'est pas très intéressant. La magie, c'est intéressant parce que ça permet de mettre, disons, en valeur des problèmes humains qui sont éternels, finalement.
C'est vrai, c'est un ROP, même constat pour vous. Sur le budget d'État, ils sont un peu proches.
Alors, en fait, moi, avec la magie, ce que je voulais, c'était avoir toujours en fait, la possibilité de passer du côté obscur de la force, puisque c'est ce que en fait, Thomas, lorsqu'il dit avec attention, tu ne peux pas faire ça, parce que si tu fais ça, en fait, tu vas devenir. Ta magie va se noircir, et en fait, tu ne peux pas, il faut qu'on garde une éthique, puisqu'il faut absolument que les humains ne comprennent pas qu'on est là, il faut qu'on essaie de garder une éthique. Donc, en fait, c'était voilà, pour être toujours en fait sur la lame du rasoir. En permanence à chacun des choix d'Eric, de se dire est-ce que je vais mettre loin et toujours parce que c'est un garçon qui n'est vraiment pas sûr de lui à chaque fois qu'il fait quelque chose, puisqu'on lui dit attention, si tu fais ça, tu vas tomber du côté obscur. À chaque fois, il se dit ça vire Star Wars, ce truc, je veux rester qui je suis, j'ai pas envie d'être de plus contrôler ce que je fais.
Moi, j'ai conçu la magie comme une complication supplémentaire pour la mandarine qui, pourtant, n'en avait pas besoin au départ, puisque, effectivement, elle a cet héritage. Alors, ce qui était intéressant, c'est que c'est un héritage qu'elle ne peut pas refuser, puisque c'est tout ce qui lui reste de sa famille, et donc, du coup, elle se sent obligée de l'accepter. Et en même temps, évidemment, c'est absolument incroyable, mais c'est pour moi une dimension supplémentaire dans la mesure où elle a des problèmes très contemporains de jeune fille qui veut faire des études et tout ça. Et comment elle gère l'héritage magique et tout cet apprentissage, alors même que personnage qui est proche de l'acier, donc quelles que soient les tourmentes, elle, voilà, elle s'en sort toujours.
Chez tous les autres, on a un espèce de système de contre-pouvoir. On a beaucoup parlé des prix à payer, on a parlé du risque. Et chez toi,
hein? Alors, chez moi, elle n'a pas de profil. C'était ça qui m'intéressait. C'était qu'elle se crée son éthique elle-même. On lui explique que des femmes de sa famille, par exemple, n'ont jamais réussi à s'enrichir malgré leur pouvoir. Il y en a une, par exemple, qui est allée a suivi une sorte de ruée vers l'or, parce qu'il y en a eu en France, en fait, hein, beaucoup plus faible qu'en Californie, mais il y en a eu en France dans les montagnes. Il y a un moment où il y avait une ville où il y avait de l'or, et cette personne y est partie, et en fait, elle est morte, on ne sait pas trop comment, on a rapatrié son corps, mais elle n'a jamais réussi à trouver de l'or. Donc, il y a une sorte de système immanent, on va dire, qui fait qu'effectivement, les sorcières ne peuvent pas s'enrichir par leur don, et d'autant plus qu'elles gardent ce don caché, donc elles n'ont pas de baguette magique à l'arrivée. Parce que si on les voyait s'agiter qu'une baguette magique, on les enfermerait et ce serait fini, quoi. Donc là, elles ont mis leur magie dans des objets qu'elles ont fabriqués, qui étaient par exemple un dé pour quelqu'un qui était une couturière, qu'on appelait la couturière au bois de fée, qui était une autre de ses ancêtres. Donc voilà, c'est des systèmes de magie, on va dire, plus modérés, de façon à pouvoir s'intégrer dans la société, quelle que soit la société, parce que moi, je parle un peu du 19e, enfin, un siècle, mais là, on est vraiment elle suit la lignée.
Et tout ce problème d'intégration de la société, de rapport aux humains, comment vous l'avez géré, ça, entre les sorciers et les humains, comment ça se passe? J'allais expliquer, tu as un petit peu renversé le paradigme, ce sont les humains qui sont finalement les plus inquiétants.
Alors, bon, ça, je me l'ai dit assez souvent, la dualité entre sorcier et humain, à mon sens, c'est quelque chose de très occidental et de très chrétien. Mais ce n'est pas du tout le cas dans d'autres systèmes de pensée ou de systèmes religieux. Moi j'ai des ancêtres qui venaient du Togo. Le sorcier du village, c'était un citoyen comme un autre. Il avait son champ, il avait ses poules, son bétail. Et puis, une fois que sa journée était finie au champ, il y avait des gens qui venaient le voir pour des problèmes XYZ, de stérilité. Je ne sais pas moi, de récolte qui ne poussait pas bien ou de choses comme ça. Donc il n'y avait pas déjà cette séparation entre sorcier et société civile, si je puis dire. Donc il n'y avait pas besoin de secret, sauf pour des savoirs qui auraient pu être dangereux s'ils tombaient dans de mauvaises mains. Donc c'est un système de pensée qui est complètement différent. Et de même, dans toutes les sociétés rurales traditionnelles, vous aviez par exemple le génie domestique qui habitait dans votre maison et qui était le génie tutélaire protecteur de votre maison. Et donc vous viviez tout le temps aux côtés du fantôme de vos ancêtres, du génie protecteur, de quelques farfadets qui se promenaient peut-être dans votre jardin, et pas seulement du génie de votre maison, mais dans d'autres systèmes, vous avez un génie tutélaire pour le bétail, pour le poulailler, pour la salle de bain, et je ne sais pas moi, si on fait mieux qu'une fantaisie moderne, je me dis qu'il devrait y en avoir un pour la machine à laver. Et donc, le système de pensée est complètement différent. De ce point de vue-là, vous n'avez pas besoin, disons, de l'intégration entre sorcier et le reste de la société, c'est plutôt la façon dont le sorcier va gérer les rapports entre les humains et les créatures magiques qui peuvent quand même être potentiellement dangereuses, ou une utilisation de la magie qui peut être dangereuse ou pas éthique. Donc c'est pas du tout les mêmes problèmes.
Alors, c'est pareil sur le vaudou.
Pour moi, sur mes romans, oui, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que ce qui est
savoir, parce qu'effectivement, c'est très intéressant. Moi, dans mon livre, il y a un grimoire, donc dans le grenier, et en fait, quand il y a les pages du livre, elles sont toutes blanches. Donc elle se dit, bah, c'est quoi ce gros livre sur lequel il n'y a rien, quoi. Et en fait, elle va comprendre que c'est un livre auquel on peut demander quelque chose, c'est pas un grimoire comme dans Pierre, même si c'est une de mes inspirations, parce que j'ai grandi avec Pierre. Mais il n'y a pas un bestiaire de toutes les créatures que vous pouvez rencontrer, et la formule qui va bien pour les aimer, mais bon, c'est pas ça dans l'histoire. Il y a un grimoire, vous pouvez lui demander des choses, mais s'il estime que vous n'êtes pas prête à maîtriser le sort que vous demandez, il ne va pas vous le donner. Débrouillez-vous. Donc il y a un côté de restriction par rapport à ça. Et sinon, sur le côté du secret, bah oui, les femmes ont beaucoup fait pour la ville, Dismance ou Habitatia. Il y a une bibliothèque, voilà, ce sont des personnalités de la ville, mais encore une fois, elles tiennent beaucoup au secret et du coup, elles ne disent pas qu'elles sont des sorcières, évidemment, et en plus, on va découvrir aussi que la magie est en sorte de disparition, parce qu'évidemment, dans le monde moderne, déjà personne n'y croit, et en plus, il y a une intrigue par rapport à ça qui se développera sur les trois tomes, en fait.
Sébastien ? Alors, en fait, moi, je suis parti d'écraser, en fait, l'arbre du monde. Et a priori, sur Terre, n'habite que des humains. Mais il y a eu un moment dans l'histoire où les créatures surnaturelles ont utilisé l'arbre pour se rendre sur Terre. Et ils ont décidé de rester à l'abri du regard des humains. Donc, ils essayent de faire en sorte qu'il n'y ait pas de magie dans leur monde. Et c'est un souci parce que par exemple, il y a un loup-garou qui reste sous sa forme de loup et qui va être blessé au cours de l'aventure. Et du coup, Eric se demande, mais est-ce qu'on peut l'amener chez un vétérinaire classique ou est-ce qu'il y a des vétérinaires spécialisés pour les surnaturels? Parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait avec ce loup-garou qui est blessé, qui a besoin d'être soigné, mais qui du coup, c'est pas un chien classique, on va remarquer qu'il y a un souci. Effectivement, les surnaturels ont mis en sorte de monde parallèle en fait, où on peut aller effectivement dans les bibliothèques. En fait, il y a une bibliothèque pour tout le monde, et puis il y a une section secrète où on peut aller pour avoir des grimoires, pour avoir des armes, pour avoir des choses dont on peut servir en tant que surnaturel. Mais les humains ignorent totalement cette partie.
Est-ce que, dites-nous, en tant qu'auteur, il y a un plaisir à utiliser la magie, à donner des pouvoirs aux personnages, il y a un fantasme particulier.
C'est sympa d'avoir un petit peu de magie.
Moi, le fantasme, c'est de rendre possible quelque chose qui ne l'est pas. Donc, par exemple, rendre une femme qui est stérile, fertile, ou alors ramener des personnes à la vie. Des choses comme ça, c'est un fantasme. Et mes personnages ne sont pas après une course au pouvoir, ou à la magie, à voler, ou à lancer des boules de feu. C'est pas du tout ça. Eux, généralement, ils s'en servent pour essayer d'aider leur famille ou leurs proches, justement, à surmonter des épreuves pas très sympas.
Moi, en fait, mon héroïne, elle va découvrir très vite qu'elle croise la route d'une personne dont le comportement est changé, et en fait, cette personne détient un fragment maléfique qui compose un atamé, donc un poignard utilisé dans des cérémonies diverses et variées. Et en fait, chacun de ces fragments a gardé, le poignard a été détruit, mais les fragments ont gardé une partie de magie. Et en fait, ses pouvoirs vont aussi se réveiller parce qu'elle croise la route de ce fragment, et son job de sorcière, ça va être de mettre la main sur le fragment, donc déjà de le reprendre à la personne qui est évidemment d'apparence magique qu'on lui prenne, et de le baiser en sorcellerie. Et donc, elle est vraiment, on est vraiment sur de la magie blanche, puisqu'elle s'oppose à une magie noire dont elle va aussi chercher l'origine, mais encore une fois, ça va lui prendre les trois tomes.
parle de la sorcière, mais on a commencé à en parler, en fait, c'est, ou du sorcier, c'est quelque chose qu'on a tous connu, que ce soit dans les contes et les séries célèbres américaines ou autres. Est-ce que c'est d'avoir une image aussi forte des sorciers, des sorcières, est-ce que c'est une contrainte ou est-ce qu'au contraire, vous en êtes libéré sans aucun souci? Est-ce que ça implique des choses déjà d'être en prison?
Alors, j'ai voulu garder des choses qui étaient connues, puisque, en fait, quand Thomas expliquait à Eric qu'il y a différents types de magie, il expliquait qu'il y a la magie de la terre, magie du feu, etc. Donc là, dans les magies classiques que tout le monde connaît. Et puisque je me basais sur de la mythologie scandinave, en fait, du coup, ce type de sorcellerie est moins connu, puisque il était utilisé en application de la science scandinave, mais qui n'est pas descendu dans le reste du feu, qui n'est pas généralisé comme la magie blanche, etc. Donc c'est vraiment un type de magie différente. Donc pour le coup, c'était plus facile, puisque j'avais juste moi à prendre ce qui m'intéressait dans mes recherches et à créer quelque chose pour le coup, qui était moins popularisé.
Et les autres par rapport à la figure traditionnelle de la sorcière?
C'était vaste, c'était une sorte de catalogue dans lequel j'ai un petit peu pioché des choses. Parce que oui, effectivement, ça m'amusait de choisir une sorcière très jeune, du coup, qui a tout à apprendre, avec, encore une fois, le grimoire dans le grenier, les pouvoirs qui surgissent de façon inattendue. Donc moi, je me suis vraiment amusée à me dire qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse. Je ne voulais pas être un personnage guérisseur, parce que c'est effectivement, comme tu l'as dit, c'est vraiment presque un cliché. Et en plus, quand on est une héroïne, elles sont déjà tellement là-dedans, les héroïnes, je trouve que moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'avoir une héroïne un petit peu badass, qui soit un peu aqueuse et tout ça, même si c'est des trucs un peu de potache qu'elle a fait, mais ça va quand on va essayer de cambrioler sa maison, ça va quand même lui servir, parce qu'elle va faire sonner la sonnerie du gars qui essaie d'entrer chez elle, il ne va pas du tout s'y attendre. Donc, ce côté à la fois aqueuse et sorcière, je pensais que c'était intéressant d'utiliser les deux. Et bon, par contre, elle va râler, parce qu'effectivement, quand elle va dans la salle magique, dans le grenier, son téléphone ne marche plus. Donc, quand elle veut faire des recherches et tout ça, la technologie et la magie, ça ne marche pas. Moi, j'ai pris vraiment des petits points de la sorcière qui m'intéressait et j'ai essayé de voir comment ça fonctionnait dans notre monde.
Alex,
j'ai fait à peu près la même chose. Hein. Je n'ai pas cherché à créer une sorcière, en fait. Plutôt deux sorcières. J'ai cherché à créer deux personnages et en général, dans mes romans, c'est des personnages qui ont effectivement le don de percevoir la magie, mais qui n'ont pas forcément les connaissances nécessaires pour l'appliquer. Donc, soit qu'ils doivent l'apprendre, vrai sorcier dans ma famille. Le dernier à avoir exercé, c'était mon grand-père. Et bon, c'était une personne très cynique. Enfin, quand j'étais jeune, je le trouvais très cynique. Maintenant que je commence à prendre de l'âge, je suis de plus en plus souvent d'accord avec lui. Et ce qu'il disait, c'est que dans 95% des cas, enfin, il le formulait de façon plus imagée, disons, mais dans 95% des cas, il n'y avait pas besoin de magie. Et les gens qui lui soumettaient leurs problèmes, ben, ils s'étaient mis dans leurs ennuis tout seuls, comme les grands. Et donc, ils passaient beaucoup de son temps à démêler des problèmes humains, il faut bien le dire. Bon, il mettait peut-être un peu de magie par-dessus. Et je dois dire qu'il y croyait vraiment. Mais personnellement, moi, j'y crois pas. Même si j'écris beaucoup dessus, j'y crois pas du tout.
Il y a une autre question. S'il y a une sorcière dans la salle, on a peut-être deux, trois trucs à leur demander. Une fois, deux fois, pas de sorcier, pas de fée, pas de lutin, rien. Vous allez continuer à écrire sur les sorciers et les sorcières et les jeteurs de sort.
Là, c'est pas prévu, on en voit le prochain.
Bon, moi je reste dans l'imaginaire, mais j'ai complètement changé de monde, de public, parce que là je suis sur un récit qui se passe dans le désert avec une oasis qui est cachée. On est sur un personnage, un narrateur qui n'a pas de pouvoir, mais il est hyper fort quand même, parce que c'est une sorte de monde du mal. Et lui va se faire capturer par des femmes dans une oasis qui ont elles des pouvoirs. Voilà.
Alors, je ne vais pas continuer avec les magiciens. Il faut justement ma trilogie fantastique où il y a de la magie, mais l'héroïne n'est pas une magicienne, mais il y a de la magie et un autre projet qui est un thriller, donc rien à voir.
Ok, tout le monde arrête avec toi, Alex.
Moi je continue, j'ai encore des choses à dire sur le sujet, clairement. Mais alors, ça va plutôt ressembler au. Ça va être du young adulte. C'est l'histoire d'une jeune fille surdouée de 16 ans qui habite dans un HLM, dans une cité avec des problèmes de drogue, de délinquance, qui n'est totalement pas comprise par sa famille et qui va découvrir par hasard qu'elle a des dons magiques. Et deux, elle va faire la rencontre avec une créature surnaturelle sur un terrain vague, ce qui va lui attirer énormément d'ennuis. C'est pareil, c'est un moment d'apprentissage.
Merci à tous, merci d'être venus. Vous la retrouvez tout de suite en dédicace, tout de suite.